Bonjour, nous sommes sur Aligre FM 93.1. Dans la vie est un roman. Et ce matin, c'est Frédéric Gournet, auteur de Métaphysique du rock, qui va nous présenter notre invité et échanger avec lui sur sa carrière et ses différentes réalisations. À toi, Fred.
Merci, Yves. Oui, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Olivier Nuc, qui a été musicien, qui est journaliste, qui a commencé au Zin Rock, qui est passé par Aden, Époque, et qui est maintenant chef du service musique au Figaro. Tu es aussi l'auteur de biographies sur Jimi Hendrix et sur Neil Young. Alors, on va revenir un moment sur ton parcours. Bonjour, Olivier.
Bonjour, Fred. Bonjour.
Moi, j'aimerais savoir quels ont été tes premiers rapports avec la musique. Est-ce que tu te rappelles du premier son de rock que tu as entendu, le premier morceau de rock'n'roll que tu as entendu?
Je me souviens que mes parents étaient amis avec un disquaire, qui était un magasin de disques et de guitares. Ça a décidé pas mal de choses dans ma vie. Qui était le meilleur ami de Laurent Voulzy, ça on en reparlera peut-être aussi.
Ouais, donc c'était à Nogent, c'est ça?
C'était à Nogent-sur-Marne. Enfin, le magasin était au Perreux-sur-Marne. Et pour mes 7 ans, il m'a offert deux albums. C'était Blondie, Parallel Lines et AC/DC, Highway to Hell.
Parfait.
Donc voilà, je me suis un peu construit sur ces deux pieds-là.
C'est parfait, oui. Ça commence bien.
Oui.
Ça aurait pu avoir pire. Enfin, Blondie d'ailleurs, bon déjà c'est une fille qui arrive dans le rock, il n'y en avait pas tant que ça, il y avait Patti Smith, voilà.
Ouais,
et il y avait très peu de femmes.
Très peu.
Et ensuite à AC/DC, bah, Inoxydable, là ils tournent encore, ils sortent encore des albums, voilà. Enfin voilà. C'est incroyable.
Ouais, c'était un bon, je pense. D'accord. Que c'était bien, c'était avisé. Oui, j'avais 7 ans.
7 ans, ouais. Ah, c'est précoce quand même.
Je m'en souviens
et
bien.
Dans ta famille, on écoutait beaucoup de musique?
Oui,
ou pas?
énormément, ouais. Toute ma famille.
Parents et les
oncles, tantes, cousins,
mélomanes,
de la radio, les grands-parents,
ouais.
Tout le temps de la musique, tout le temps, tout
d'accord.
Le temps. Pour moi, c'est, je peux pas vivre sans la musique. C'est parce que j'ai appris à vivre comme ça.
D'accord. Et ça écoutait quoi à la maison? Qu'est-ce que t'as entendu?
Bon, de la nouvelle chanson française de l'époque. Moi, on a grandi avec. J'avais l'impression qu'Alain Souchon et Laurent Voulzy c'était des chanteurs régionaux. Parce que ils étaient dans notre ville. Mes parents écoutaient beaucoup Michel Jonas en français, Véronique Sanson, des gens comme ça. Et puis du rock. Il y avait, ma mère était vraiment dingue des Beatles, donc j'ai grandi avec ça. Dylan, des choses solides. Hein, je m'aperçois.
Oui,
tu as
été bien éduqué musicalement.
J'ai eu de la chance. Je suis bien tombé.
Bien tombé, oui. Oui. Non, parce que c'était pas évident dans ces années-là.
Non, c'est vrai, c'est vrai.
D'écouter cette musique, parce que c'était encore une variété française qui dominait, comme tu dis, la radio. Et le rock, vraiment, anglo-saxon, n'était pas encore, passait pas beaucoup ni à la télé, ni à la radio.
Non, c'est vrai, ça restait un peu underground. Mais...
Et donc, tu es guitariste?
Oui, alors ça aussi, ben, ça m'est tombé dessus.
Et donc, à quel âge tu as commencé à faire de la musique?
Mon cousin qui a 10 ans de plus que moi, qui a été mon idole... et qui reste un modèle pour moi, était guitariste et gamin, je voulais toucher la guitare tout le temps. Et quand j'ai eu 10 ans, il m'a offert sa première guitare, et donc ça a commencé comme ça.
C'était quoi le modèle, tu t'en rappelles?
C'est une classique, une coréenne, une Hondo 2, la marque.
D'accord, oui, c'est les copies des guitares américaines, voilà. C'est ça.
Mais elle était pas mal, hein.
Oui, mais il y a des bonnes copies maintenant, on leur a rendu
encore,
justice.
Je l'ai encore,
ouais.
Mais elle est un peu abîmée, bon, elle a 50 ans, ce qui est un âge respectable pour une guitare.
Oui, oui, oui. Et donc, tu as fait de la musique assez tôt. Donc, alors, tu tombes sur la meilleure musique à 7 ans. À 10 ans, tu as une guitare. Donc, très vite, à mon avis, tu commences à faire de la musique. À quel âge tu as fait ton premier groupe?
Premier concert, premier groupe. On avait 16 ans, on était au lycée. Et on a joué dans un relais paroissial pour la fête de la fin d'année. Et on jouait un blues de Big Bill Brunzi qui était... Black, Brown and White, et on a joué ça. Alors, c'est marrant parce que je dirigeais un peu les opérations. Il y avait que des guitaristes. Donc j'avais dit, toi tu feras la ligne de basse, toi tu feras la rythmique et moi je vais chorusser quoi. Mm. Et ça s'est hyper bien passé. Il y avait toute ma famille. On a joué deux soirs de suite, un morceau, hein, mais on était comme des fous. Et là je me suis dit, ouais, il y a quand même quelque chose à creuser là-dedans. C'était 16 ans, donc fin des années 80. Immense souvenir, merveilleux souvenir.
Et donc tu joues de la guitare, mais bon, tu ne vas pas en vivre et tu ne vas pas en faire ton métier tout de suite. En tout cas, tu n'auras pas ta première formation qui va qui va être un peu connu quand même. Donc tu fais des études à l'époque de journalisme ou de littérature?
Non, moi j'ai fait des études d'anglais à cause de la musique en réalité, parce que je voulais comprendre les paroles. Donc je me suis dit l'anglais, c'était facile pour moi l'anglais, donc j'ai poursuivi jusqu'à la maîtrise d'anglais. Et en maîtrise d'anglais, on se retrouve avec un directeur de maîtrise charmant, un type brillant, spécialiste de la culture américaine, etc., qui dit un jour, je m'adresse à des futurs profs, là, et moi je lève la main, je suis le seul à lever la main. Il dit, pourquoi vous levez la main? Je dis, moi j'ai pas envie d'être prof, j'ai pas la vocation, c'est un super métier, je pense que c'est un truc qui doit être fait par des gens qui ont vraiment envie de le faire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Devenir journaliste? Ah, vous n'y arriverez jamais. Bon. je me suis accroché, et puis... je me suis pas accroché, parce que j'étais un fou. J'ai envoyé une lettre, un CV dans ma vie, c'est tout. Pour décrocher un stage. C'était les Inrecuptibles.
Aux Inrock. Donc on est en 1980, entre 1986 et 1988.
Non, on est plus tard.
Plus tard.
Non, on est milieu des années 90 là.
Ah oui, d'accord.
Donc à la fin de mes études. Donc j'ai pas du tout mis les chances, toutes les chances.
Donc c'était encore les années Christian Feuvray, Gilles Beauvallet.
C'était le début de l'hebdo.
Ok, voilà. Parce qu'il faut savoir que ça a commencé en 86, 87, en tant que bimensuel. Après, c'est passé en mensuel, après, c'est passé en hebdo. Donc, toi, t'arrives au moment où ça passe en hebdo.
Ils ont besoin de gens, ça tombe bien.
Oui, il fallait que ça tourne beaucoup.
Il fallait que ça tourne. Donc, moi, j'ai été stagiaire pendant 3 mois, pigiste après. Et puis, voilà, j'étais un peu l'homme à tout faire.
Ouais.
Ce qui était très formateur, parce que j'ai fini mes études là-bas, en réalité.
D'accord.
Ça a été une école géniale. Et puis, le journal pesait lourd à l'époque.
Il pesait très lourd, il continue d'avoir une aura, même si les ventes ne sont plus exactement les mêmes. Est-ce que Arnaud Vivian me disait, c'était un peu le dernier grand magazine qui a été créé en France?
Oui, c'est vrai.
Voilà.
Moi, je rendrais toujours hommage à Christian Feuvray, qui est un homme brillant, qui a eu cette vision-là et qui l'a tenu vraiment à bout de bras, contre vents et marées, contre les gens qui disaient, tous les ans, on entendait, le journal va fermer. Bon sang, ça va faire 40 ans qu'il est là, chapeau, quoi. Enfin, oui, c'est une grande réussite. Je suis très heureux, j'ai eu beaucoup de chance de commencer là-bas. C'était le rêve, je me disais, qu'est-ce que je peux faire de mieux?
Il y avait des grandes plumes en plus. Il y avait J.D. Beauvallet, il y avait Kaganski, il y avait plein de gens qui écrivaient très bien.
Ah oui,
la mise en
Francis
page,
Dordor.
Francis Dordor, qui venait de Best.
Oui.
Et la mise en page en plus était très belle, enfin, c'était très soigné, très léché. Enfin, c'était vraiment un grand magazine. Donc oui, tu commences bien. Et là, tu continues à faire de la musique pendant que tu pigistes.
Oui, mais j'en parle pas parce que je...
Bah oui, ça se fait pas, c'est un peu schizophrénique.
Oui, non, surtout je voulais pas que les gens se disent que j'essayais de passer par la fenêtre. Enfin, je sais pas. Donc j'étais discret là-dessus parce que je voulais vraiment être journaliste. C'était pas par défaut que j'ai fait ça. La musique, j'ai arrêté parce que j'avais commencé très jeune. Enfin, j'ai pas arrêté, mais j'ai arrêté d'avoir de l'ambition. Parce que les conditions n'étaient pas réunies pour moi à l'époque, je pense. C'était déjà d'autres conditions. C'était le début des années 90. Nous, on chantait en anglais, on faisait du rock un peu noisy. On était très influencés par Nirvana, les Pixies, Sonic Youth, etc. Il n'y avait pas de marché pour cette musique en France. Et puis, tous les gens nous disaient qu'il faut chanter en français. Moi, j'écrivais des textes en anglais parce que j'étais étudiant en anglais. Je ne voulais pas compromettre quoi que ce soit. Donc... J'ai coutume de dire, je serais devenu un musicien frustré si j'avais continué la musique. Au contraire, j'ai pas laissé la frustration s'emparer de moi. J'ai arrêté d'avoir de l'ambition assez tôt. Parce que vraiment, Et puis j'avais peut-être pas le talent et surtout pas la hargne nécessaire pour
Alors moi, je trouve que c'était Daisy Box, c'est ça?
C'était Daisy quand on a formé le groupe. Après, ils ont dû changer de nom.
Quand t'es parti?
Oui, parce que quand ils ont signé, parce que Daisy, c'est un nom déposé par Disney.
D'accord.
Voilà. Donc déjà, moi, ce genre de truc, j'avais pas envie de me frotter à ça. En fait, j'avais pas envie que quelqu'un me ramène à la réalité. Pour moi, la musique, ça a toujours été une espèce d'oasis, une espèce, sans jeu de mots avec le groupe, mais quelque chose d'un peu sacré. Et là, tout à coup, être dans quelque chose de bêtement matériel, ça me convenait pas. J'ai jamais voulu... J'ai jamais gagné d'argent avec la musique, je n'en ai jamais perdu, mais je voulais pas que ça rentre en ligne de compte.
Et pourtant, quand tu es journaliste, tu dois aussi gérer une réalité, tu dois gérer des pressions qui sont des publicitaires ou des annonceurs, ou des chefs de rubrique, ou des chefs de... Alors c'est vrai que les Arancs ont été réputés pour leur indépendance longtemps, cette réalité-là commerciale, entre guillemets, existe aussi dans la presse rock.
Oui, c'est vrai, mais j'ai réussi à me préserver de ça. Déjà, je suis pas bon pour les chiffres, je les retiens pas. Je voulais pas savoir, en fait. Je trouve que c'est vite déprimant.
Alors moi, je t'ai écouté quand même. Tu jouais de la guitare, tu jouais bien. Et en plus, c'est vrai qu'il y avait un côté très placebo, donc Sonic Youth, parce que placebo, ouais, l'avant-garde de Sonic Youth. C'est vrai que c'était les années Nirvana. Bon, on est en plein Kurt Cobain se suicide en 94.
Oui, c'est ça.
Donc on est en plein grunge, on va appeler ça ça. Voilà, on est en plein grunge. Oui. Il y a Pearl Jam, les Red Hot Chili Peppers. Même si c'est pas un groupe de grunge, étaient associés à Nirvana et à Pearl Jam. Ils ont fait tourner beaucoup ensemble.
Oui, c'est vrai.
Donc c'était. Là, je suis pas tellement d'accord avec toi quand tu dis que c'était pas une période rock. C'était peut-être la dernière période rock en France au niveau de label où on pouvait encore signer. Et il y avait Noir Désir vendait énormément.
Oui, c'est vrai.
Ils sortaient, ils vendaient 1 million d'albums.
Mais ils chantaient en français.
Ils avaient 3 titres en français par album, c'est le compromis, c'est la fameuse règle des 3 titres en français. Donc, bon, ça c'est un détail de différence entre nous, mais je pense que c'était la dernière période où le rock français a pu exister. D'ailleurs, depuis, il n'y a pas eu grand-chose. Donc tu plonges à fond dans le journalisme.
Oui, là, je me suis jeté là-dedans, mais
voilà.
Et donc, là, c'est ça aussi.
Ce qui s'est passé, c'est que dans un moment, les Inrocks créent quelque chose avec Télérama qui s'appelle Aden, c'est
avec
ça.
Avec le Monde.
Avec le Monde, oui, voilà, avec le Monde.
Oui, moi, je travaillais pour le supplément qui s'appelait Le Guide de bord. C'est Christophe Comte qui est rédacteur-chef. Moi, j'étais un peu son adjoint. Bon, Le Guide de bord, voilà, jeu de mots, etc.
Ça dit tout.
Et Le Guide de bord s'est arrêté parce que les Inrocks se rapprochaient du Monde qui avait financé un supplément culturel. Qui prenait la suite, qui était beaucoup plus ambitieux, qui s'appelait Aden. J'ai eu la chance, à 23 ans, de me retrouver chef de rubrique.
Ah oui, c'est tout.
Pour un journal diffusé dans le Monde et dans les Inrocks, c'était une grande chance.
Avec des pointures, parce que le Monde et les Inrocks, c'était un peu l'élite du journalisme.
Il y avait tout à faire en même temps. La rubrique musique n'existait pas, le journal n'existait pas. Et c'est quand même un luxe, un privilège dans une vie de journaliste de pouvoir avoir été à l'origine d'un titre. Et je considère que c'est une énorme chance. Enfin... Parce que j'ai fait ce que j'ai voulu pendant 7 ans que le journal a existé. La musique, c'était
c'est
moi.
Énorme.
C'est moi qui ai défini la ligne éditoriale. Et on faisait des trucs complètement fous. On a mis Hotaker en une. On a mis At the Drive-In. Enfin, des choses... Oui, on était assez radicaux. Moi, je travaillais qu'avec les labels indépendants. Je mettais un point d'honneur à faire que des... Ouais, c'était une sacrée aventure. Ouais.
Et après, il y a Époque.
Donc, Époque, c'est après.
C'est le supplément FNAC, c'est le magazine de la FNAC,
ouais,
c'est ça ?
Alors, c'est drôle, c'est que parce que j'y suis entré au moment où ça passait hebdo aussi. Donc, j'étais un peu condamné à bosser dans des hebdos.
Donc, c'est un rythme très soutenu.
C'est un rythme un peu bâtard. C'est un rythme qui est dur, l'hebdo. Parce qu'on trimballe ses papiers pendant une semaine comme une espèce de souffrance. Je préfère le quotidien maintenant parce que chaque jour, on termine quelque chose. On n'a pas l'impression de mettre une semaine à gravir une montagne. On monte une petite colline par jour.
D'accord.
Ce qui est plus... Enfin, moi, je préfère ce rythme-là. Mais à l'époque, c'est arrêté parce que c'était très mal géré, ce journal. C'était le journal de la FNAC qui était très mal géré avec des décisions. On sentait bien qu'on allait dans le mur dès le départ.
Mais c'était un gratuit, c'est distribué.
C'était un gratuit,
on a distribué dans la FNAC.
Ouais. Il n'y avait pas de pub. Enfin bon, c'était... Ouais. Mais journalistiquement, je me suis retrouvé la chef de rubrique avec une équipe... Et j'avais une quinzaine de pigistes et j'aimais bien nos réunions parce que je faisais des réunions très conviviales autour d'un déjeuner. Et je trouvais que les idées, les gens étaient... Je ne me voyais pas chef traditionnel, je me disais... J'avais 30 ans, je disais, allez, on va tous au bar ou au resto et puis on parle et on voit ce qui sort de ça. C'était une espèce d'expérimentation. Et ça marchait bien parce que j'ai toujours considéré que dans le journalisme, les chapelles, c'est réducteur et... Ce qui me parlait, c'était l'enthousiasme des gens. Quelqu'un qui levait la main, qui me disait « Ouais, j'adorerais parler à un tel », pour moi, c'est la meilleure motivation. C'est pas « Ah ouais, c'est dans ma rubrique, il faut que je le fasse ». Non, mais même si c'est pas dans ta rubrique, vas-y. Donc j'ai eu des papiers super de gens qui étaient spécialistes du hip-hop, qui allaient interviewer des chanteurs de traditionnels, de chansons. Et j'ai expérimenté ça.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Nous sommes toujours en présence d'Olivier Nuc pour nous parler de son parcours, de sa vie, de son métier de journaliste. Donc là, tu viens de nous raconter ta formation aux Inrocks et puis à Aden, ensuite à Époque. Et puis là, maintenant, tu es chef de service musique au Figaro. Alors, c'est un parcours assez singulier. Je pense que tu as dû entendre derrière toi des noms d'oiseaux confusés, félon, embourgeoisé, compromis, corrompu,
encarté,
voilà, exactement. Donc comment on fait pour se retrouver au Figaro qui est un peu à l'opposé des Inrocks quand même au niveau à l'époque.
Alors c'est intéressant parce que maintenant on est deux, Ouais, j'étais longtemps tout seul à être passé effectivement des un rock au Figaro. Maintenant, on est deux. Il y a Joseph Gone qui est au Figaro Madame et qui lui venait directement des un rock. Moi, j'ai fait des choses entre les un rock et le Figaro, mais je trouve que mon exemple, et j'en ai parlé avec les fondateurs des un rock justement, avec Christian, avec JD, avec mon exemple, il incarne finalement l'idéal des un rock au départ, c'est d'inventer une nouvelle forme de journalisme. Mais il me semble que la réussite d'un titre de presse, c'est quand ces journalistes vont ailleurs dans les médias établis. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont commencé aux uns, qui ont été ensuite sur des, soit Radio France, soit France Télévisions, ou moi qui suis au Figaro. Mmh. Et j'entendais, pour une des relances du journal il y a quelques années, quelqu'un qui me citait un exemple, qui disait, voilà, on a formé des gens qui aujourd'hui sont des journalistes. Il fallait sortir des unrocs. Il fallait
en
sortir.
Oui, parce que la réputation de chapelle, de sectarisme et tout, a longtemps collé aux unrocs. On leur reprochait leur parti pris, leur mauvaise foi, presque un côté doctrinal.
Un peu sectaire, parfois, oui. Voilà, c'est ça. C'est vrai.
Et donc, toi, tu rentres quand même au Figaro. Il faut le rappeler, le Figaro n'a pas toujours aimé le rock, n'a pas toujours défendu le rock.
Non.
Ils ont mis du temps à s'apercevoir de l'existence du rock. On se rappelle de papiers de Powell sur le sida mental, les jeunes, sur Gainsbourg. Enfin bon, c'était terrible. Donc, moi, je suis ravi que le Figaro découvre le rock grâce à toi. Et ça a été une surprise pour moi.
Il y a eu Bertrand Dical avant moi qui a fait beaucoup, beaucoup.
Oui, Bertrand Dical, mais... c'est marrant que tu parles de lui parce que vous avez des choses en commun quand même.
Oui.
Dicalo a ouvert la voie, mais moi je suis ravi. Donc les Arocs découvrent le rock, c'est très bien. Et ce qui est incroyable, c'est l'amplitude de ton ouverture musicale. C'est-à-dire que tu es capable de parler de Sonic Youth comme de Johnny Hallyday, de Noyeux comme de Mireille Mathieu, de Rachida comme de Stromae, et même de Nicoletta et Aurel San. Enfin, j'ai l'impression que tu n'as pas de limite à ton registre.
Si, j'ai une limite qui est mon goût, mon oreille. Surtout, mon critère principal dans ce métier depuis le début, c'est de parler à des musiciens et de ne pas parler à des célébrités. Le facteur célébrité ne m'a jamais encombré. Et je pense qu'il a encombré certains journalistes à un moment donné. Moi, la célébrité, quelque chose ne m'impressionne pas du tout. Ce qui m'impressionne, c'est un musicien, de préférence un songwriter, quelqu'un qui a consacré sa vie à ça, qu'il soit très connu ou qu'il soit inconnu, ça m'impressionne avec la même intensité. Donc je dirais que c'est ma grille de lecture, elle est là. Après, le plaisir, parce que moi j'ai bien vu les injonctions dans ce métier. Quand j'ai commencé aux Unrock, j'étais condamné à chroniquer un peu toujours le même genre de disque. Parce qu'on me disait, ah ouais, toi t'aimes bien, en gros, le rock américain un peu bricolé. Et donc je me retrouvais à chroniquer Beck, mais des sous-Becks et des sous-sous-sous de moins en moins bons.
Parce qu'on est le lofi, en fait.
C'est ça. J'étais un peu chef de rayon. Mais les produits étaient de moins en moins intéressants. Ouais. Et
il y avait Sebado, effectivement.
Ça, c'était plus Stéphane Deschamps.
Des précarés, des chasses gardées,
oui,
c'était
oui,
ça.
Oui, Stéphane, il était plus lofi. Moi, j'étais plus une espèce de blues. Enfin, Beck, quoi, vraiment. Beck et les dérivés. Mais ça ne m'amusait plus parce que le plaisir de ce métier, ça fait bientôt 30 ans que je fais ce métier, c'est de parler à des gens différents, effectivement, de passer de Pete Townsend à Nicoletta, qui ont finalement beaucoup plus de points communs qu'on l'imagine. Et je me suis aperçu que les musiciens étaient beaucoup plus généreux que les critiques. J'ai une anecdote là-dessus. La dernière fois que j'ai vu Nick Cave, il y a 15 ans, on a déjeuné ensemble dans un hôtel à Paris. Et il y avait Queen qui passait dans la sono. Et Queen, c'est le groupe qui m'insupporte. C'est vraiment le groupe, c'est mon allergie.
Ouais.
Et il me voit grimacer, etc. Et je pensais avoir un allié en lui, en lui disant « Non, mais Queen, c'est vraiment pourri ». Il me dit « Non, détrompe-toi, c'est un groupe intéressant. » Et je me suis aperçu, c'est une grande leçon, c'est qu'effectivement, les musiciens entre eux sont beaucoup moins critiques que nous. Ils sont plus généreux parce qu'ils font le même métier. Et puis, j'ai quand même eu aussi des expériences qui m'ont permis d'être plus généreux vis-à-vis de la musique. C'est que j'ai monté un festival quand j'avais 28 ans, qui était les Festins d'Aden. J'ai été directeur artistique d'un double album chez Universal autour de Boris Vian. Donc, j'ai travaillé vraiment... J'ai vu en réalité ce qu'était... un idéal, c'est-à-dire qu'on a envie de faire un disque, et tous les compromis et tous les accidents qui peuvent survenir entre la conception, entre l'idée et la sortie du disque. Et ça m'a rendu plus généreux en tant que journaliste. Moins péremptoire, probablement. Parce que j'ai commencé, j'étais très péremptoire dans un journal qui encourageait à être péremptoire. Mais finalement, on se pose la question de la légitimité. Donc, la vraie question, le vrai questionnement, c'est au contact des musiciens. Effectivement, je comprends qu'un disque puisse être raté. Il y a des tas de choses qui peuvent vous échapper.
Oui, j'ai appris ça aussi avec David Christoffel, qui est un très bon musicologue, et qui me disait les musiciens ont droit à l'erreur. Et souvent, on ne leur pardonne pas ça dans les médias, ou en tant que joueur, même en tant que fan. Moi, le premier, il y a un groupe que j'adore sort un album à moitié réussi, je vais être le premier à dire c'est de la merde, c'est pourri, ils se sont plantés, c'est fini. Donc, on a tous un peu des réflexes comme ça. Donc, pour le coup, tu as pris, en tant que. Tu as dirigé un festival, tu as produit un album, tu as aussi fait un hommage à Bachung, tu as participé à un hommage à Bachung.
Oui, puis j'ai coécrit un bouquin avec mon camarade Bruno Lesprit. Esprit du monde avec Alain Bachung, qui devait se faire avec lui au départ, et puis il a été trop malade. Mais oui, on a l'idée. Moi, l'idée, c'était que le journalisme, c'est mon métier, et je suis allé voir en périphérie de tout ce qui se passe pour avoir une vision aussi complète possible de la musique, voir les différents postes, parce que le poste de journaliste, il permet d'aller. Mais là aussi, je me suis pris des volets de bois vert quand j'ai été directeur artistique d'un projet, mais j'en ai entendu, mais c'est inimaginable. Des gens qui m'insultaient. T'as pas le droit de faire ça. J'ai comment ça, j'ai pas le droit. Je disais, si je me plante, je le reconnaîtrai. Si je me plante, je le reconnaîtrai. Je dirais, c'était pas pour moi. Je dis, mais tant que je ne l'ai pas fait, je ne peux pas vous laisser me dire que c'est pas pour moi. Je l'ai fait. L'album a très bien marché. On a embarqué Daniel dessus, par exemple, Daniel Darc et d'autres. On a fait une tournée. C'était un des moments les plus merveilleux de ma vie professionnelle. Mais après, je me suis retiré. Je comptais pas prendre la place de quelqu'un. Juste, je suis allé présenter un projet que personne n'avait eu. J'avais imaginé, à partir de textes de chansons de Boris Vian qui n'avaient jamais été mises en musique, de les faire mettre en musique par des musiciens contemporains. Et ça, je suis allé voir la famille Vian, les héritiers. Ils m'ont dit, c'est une géniale idée, personne ne nous l'a proposé. Donc, est-ce que je vais culpabiliser, moi, de réaliser un projet dont j'ai eu l'idée? Eh bien, non. Je l'ai fait. Sinon, peut-être quelqu'un aurait eu l'idée des années plus tard, mais je n'ai pris la place de personne.
Et la version de Daniel Darc, pas pour moi, elle est super bien.
C'était un moment génial. Moi, le jour où on a enregistré la voix de Daniel, qui est venu en studio, le fils de Boris Vian, Patrick Vian, était là. Il avait dit « je passerai ». Et Daniel m'agrippe le bras avant d'entrer dans la cabine, me dit « Olivier, t'es vraiment un salaud, tu me fais ça à moi. Le seul jour où il y a le fils Vian, c'est pour moi. » Je lui dis « écoute, c'est le hasard ». Et résultat, il a fait sa voix en une prise. Et l'harmonica, il a été brillantissime.
Ah ouais, il est super bien le morceau.
Et ce morceau, moi, je peux pas l'écouter, je suis en larmes quand je l'écoute.
Oui, non, mais il est bouleversant.
Il déchire. Marc Dufaux m'a dit, c'est une super réussite. Et je suis fier. Voilà, on a collé ce texte. Moi, j'ai lu ce texte, j'ai pensé à Daniel. J'ai dit, je suis allé le voir, j'ai dit, Daniel, c'est pour toi.
Il m'a dit, t'as pas voulu continuer en tant que producteur, parce que tu aurais fait plus d'argent qu'en tant que journaliste. Ça t'a pas tenté pas.
Non,
juste avec cette idée. J'ai bien compris que c'était pas l'argent qui t'intéressait et c'était une boutade. Mais on peut avoir le sentiment qu'on peut réaliser plein de choses d'un coup que plein d'autres personnes ne peuvent pas faire. Donc peut-être que t'étais dans une position de force. Ça marchait le disque.
Oui,
tu t'es pas dit tiens, je vais doubler la mise, je vais faire un autre truc.
Non, parce que je voulais vraiment faire quelque chose qui me tenait à cœur depuis très longtemps. Et puis surtout, ça a été un des derniers projets de maison de disque. On a eu 200 000 euros de budget.
Ouais.
C'est fini après.
Oui, c'est vrai. Après, les ventes physiques s'écroulent.
Ça s'effondre.
Le streaming commence. Il y a le piratage de Napster et là.
On a fait des cordes, on a fait de vraies cordes. Moi, on m'avait dit qu'il faut mettre des cordes synthétiques. Je fais non, je veux des vraies cordes. On a fait un truc haut de gamme. Moi, je ne voulais pas le faire un truc cheap derrière. Ma chance et ma malchance, effectivement, c'est d'avoir commencé très jeune, d'avoir eu de la chance très jeune dans ce métier. Donc ça m'a donné un critère d'exigence énorme. Effectivement, j'ai commencé dans ce qui était, à mon avis, le meilleur canard à l'époque, les Inrock. J'ai fait un projet avec les meilleures personnes et les meilleures conditions. Qu'est-ce que je vais m'emmerder derrière à faire des trucs à 2 francs 6 sous?
Alors, on va marquer une première pause musicale. J'ai choisi un morceau pour toi. Et après, on en reparle.
Change gonna come at night.
Donc, nous sommes dans La vie est un roman et j'en profite pour remercier les techniciens qui sont de l'autre côté de la vitre. Merci à Alexandre Valbrook, à Dariano Pitan et à Enrico Mastro Giovanni. Merci à vous.
Oui, nous sommes toujours avec Olivier Nuc sur Aligre FM 93.1. Olivier qui est là pour nous parler de son parcours, de son métier, de sa passion. Donc, journaliste, chef de rubrique musique. Là, on vient d'écouter un musicien que tu connais très bien, oui. Parce que tu n'es pas seulement journaliste, tu es aussi biographe. Et donc, tu as écrit une biographie de Neil Young. On peut rappeler que Neil Young, quand même, a sorti 45 albums.
Ah, c'est plus maintenant, oui.
Plus
oui,
d'accord. J'ai bloqué à 45.
On a passé les 50, je crois.
Ah, on a passé les 50. Oui. Donc, explique-nous pourquoi tu as voulu écrire une biographie de Neil Young.
Alors moi, je suis né en 1972. C'est l'année où est sorti Harvest. Et c'est le disque que ma mère écoutait quand elle m'attendait. Et pour moi, la voix de Neil Young, c'est vraiment le cocon. Il se passe un...
Tu penses que tu as entendu à travers...
Oui, oui.
Dans l'équipe amniotique, tu as été biberonné avant même...
Je ne pense pas, j'en suis persuadé.
Ah, t'es persuadé, oui.
C'est-à-dire que c'était Pink Floyd et Neil Young quand j'étais en gestation, ce qui est pas mal aussi.
C'est pas mal, oui.
Et donc cette voix, moi, cette voix qui est tellement décriée, qui est tellement atypique, pour moi, c'est le bien-être. En fait, c'est vraiment le retour aux sources. Et puis j'ai fait le pont avec... moi, j'écoutais pas Neil Young quand j'étais ado, parce que pour moi, c'était un vieux. Puis quand Nick Cave, Dinosaur Junior, Sonic Youth, les Pixies ont repris ces chansons, j'ai fait le lien avec la musique de mes parents. Je me suis dit, ah, en fait, c'est le même mec. Et c'était le seul, quasiment, à la fin des années 80, qui était sauvé de cette génération.
Il y avait quand même Cohen, Dylan, était quand même... revendiqué par cette génération-là.
Moins. À l'époque, ouais. C'était vraiment... Je me souviens d'un papier d'Arnaud Vivian, justement, dans les Inrock, où il disait, voilà, Neil Young est le seul... À l'époque, il était quadragénaire, ce qui est fou. Ouais. Il n'était vraiment pas vieux.
Il faut parler aussi de son jeu de guitare, qui est un jeu de guitare qui est très moderne, qui est très original à ce moment.
Oui, totalement.
Parce qu'il joue sur très peu de notes, ça sature, c'est la distorsion, puis y a pas, ça dure longtemps, c'est au milieu du morceau, ça vient un peu...
C'est du son.
C'est du son pur, il joue avec le son.
Moi qui étais dans le noise, je faisais... Ça, moi, ça reste mon son de guitare préféré, cette guitare. J'ai eu la chance de l'entendre directement sortant de l'ampli, en plus. C'est, oui, on peut vivre dans ce son-là, on D'accord. peut faire une vie dans ce son-là.
Et dans cette biographie, ça doit être un travail quand même assez colossal, quand même. De...
Bon, c'est un petit l'œuvre. Bouquin que j'ai sorti ouais. en 2002. Là, en revanche, je suis en train de travailler sur une BD.
D'accord.
Avec un dessinateur qui s'appelle David Scrima, et ça sort l'année prochaine chez Dupuis. Là, c'est énormément de travail.
Sur Neil Young, toujours.
200 pages, oui, oui. Oh, oui. Un portrait de Neil Young. Je lui dois bien ça, parce que, je dirais que c'est le musicien. Dans les vivants, pour moi, c'est le plus important.
Mais c'est marrant parce qu'il est, en tout cas en France, je trouve qu'il est un peu sous-estimé, en tout cas moins connu que Dylan ou Cohen.
Oui.
Il a moins cette aura, peut-être parce qu'il est canadien, je ne sais pas, ou parce qu'aux États-Unis, c'est quelqu'un qui est multi-récompensé, qui vaut énormément, oui. Il est à l'égal des autres dans le panthéon du rock. Et tu as écrit une autre biographie sur Jimi Hendrix.
Oui.
Alors, est-ce que tu peux expliquer pourquoi, 54 ans après sa mort, Hendrix reste toujours le plus grand guitariste de rock?
Parce que je pense que c'est un des rares génies absolus de cette musique. Moi, ça a changé ma vie, Hendrix. Je suis entré au lycée et on était deux mecs à écouter Jimi Hendrix. À l'époque, les gens écoutaient Indochine pour dire dans quelle panade on était. Mm-hmm. Dans le lycée, ils écoutaient Indochine. Nous, on était deux. On est devenus les deux meilleurs amis du monde. C'est encore mon meilleur ami, c'est Nicolas. On écoutait ça et on était fracassés en permanence. Quoi. Moi, c'est tellement intense, Hendrix, que je ne peux pas l'écouter à petite dose. Je me plonge dedans et je fais que ça. Pour moi, ce type a changé ma vie, a changé la vie de beaucoup de gens, a changé le rock. Et ça reste bien plus qu'un guitariste, d'ailleurs. S'il avait seulement été guitariste, on ne l'écouterait plus. Mais c'est un songwriter immense, c'est un producteur de disques incroyable, un chanteur génial, enfin...
Il s'empare des pédales qui arrivent, des nouvelles pédales qui arrivent. Les studios, les fabricants lui amènent la pédale et tout de suite il enregistre avec et il fait des choses incroyables. C'est-à-dire qu'il s'empare totalement de l'instrument. Puis il y a aussi son charisme.
On peut pas aller plus loin. On peut pas aller plus loin que l'hymne américain Woodstock. On peut pas en termes de son de guitare. Pour moi, la guitare électrique. Si demain je croise un martien et qu'il me demande c'est quoi la guitare électrique, je lui fais écouter Hendrix à Woodstock. Personne n'est allé plus loin. Les gens me bassinent avec Van Halen et tout ça, mais Van Halen n'est pas allé plus loin que ça. Mmh. Personne. Et Tom Morello et ces gens qui sont d'excellents guitaristes, de grands stylistes, etc. Mmh. Mais pas un type est allé aussi loin qu'Hendrix depuis.
Et pourquoi le pauvre Jeff Beck n'a pas le droit à ce statut ?
Jeff Beck, c'est un génie, évidemment. Un génie absolu aussi. Mais Jeff Beck, il ne chante pas, et ce n'est pas un très grand songwriter, ce n'est pas un très grand producteur. C'est juste un guitariste. Mmh. C'est peut-être le meilleur. Mais moi, juste guitariste, ça ne m'intéresse pas. Ça ne me suffit pas.
Non, puis il y a les performances de Jimi Hendrix en concert. Comment il fait corps avec sa guitare, comment il danse, comment il bouge, comment il vit sa musique, comment il est totalement possédé par la musique. Et comment il rejoint, c'est Voodoo Child, hein, il y a quand même une référence à la possession. Et il est totalement habité par sa musique. Donc on comprend évidemment qu'il reste toujours le meilleur guitariste. Encore régulièrement, ils font des top 10 des meilleurs guitaristes au monde. Et il n'est pas délogé.
Il ne le sera pas.
Il ne le sera pas. Et alors, c'est un peu le Mozart de la guitare, enfin, en tout cas, le luth sacré du rock. on va peut-être écouter un morceau de Jimi Hendrix, un petit extrait, juste pour le plaisir.
Allegre FM 93.1.
Down with the edge of my hand.
Vous êtes toujours sur Allegre FM 93.1 dans l'émission d'Yves Tanret, La vie est un roman, avec Olivier Nuc qui nous parle de sa passion, de son métier, de sa vie. Donc on vient d'écouter Jimi Hendrix. Donc pour toi, Jimi Hendrix, qu'est-ce qu'il représente? Pourquoi il reste encore, on vient d'en parler, ce musicien indépassable?
Alors moi, je voudrais aussi préciser quelque chose. C'est marrant parce que les gens ont tendance à penser que quand on est professionnel et qu'on écoute de la musique, qu'on écrit dessus, qu'on est puriste. Et justement, je voudrais en profiter de cette tribune pour dire que je suis le contraire d'un puriste. Et j'aime les musiques quand elles se frottent, quand elles se mélangent, quand on fait des choses interdites. Et Hendrix, typiquement, il a fait tout ce qu'on ne devait pas faire. À l'époque, les ingé sons dans les studios, ils disaient une guitare saturée, ils disaient non, t'as un problème de son. Il y est allé, effectivement, il a réussi en Angleterre, alors qu'il est américain, il est né à Seattle, dans l'état de Washington, il a réussi en Angleterre, avec deux blancs becs, dont un batteur génialissime qui s'appelait Mitch Mitchell, dans un environnement de rock psyché. Lui-même était moitié indien Cherokee, moitié noir, fils descendant d'esclaves. C'est le mélange, et la musique, elle est géniale quand elle se mélange, quand on sort du couloir. Effectivement, Hendrix, il aurait pu être bluesman, très dans les clous, très raisonnable, très comme les autres. Non, il a fait du show.
Il a commencé dans des groupes traditionnels.
Très sage, en costume, des groupes de R&B. C'est ça. Mais très vite, il a dérangé parce qu'il prenait trop de place. Il faisait des choses. Ah non, mais ça se fait pas. Ah non, mais ça... C'est quand même... Les génies de la musique sont quand même ceux qui la bousculent.
Mmh. Il était gaucher, en plus.
Oui, il avait tout pour... Pour pas être dans les clous, et tant mieux. Et pourquoi on parle encore de lui aujourd'hui? Parce qu'il s'est distingué, il a explosé tous les carcans. Et pour moi, la musique, c'est ça. Comme ça qu'elle avance. Donc, je suis l'inverse d'un puriste. Ça, j'y tiens, parce que les gens parfois me disent « Ah oui, mais toi, t'es un puriste ». Non, surtout pas. Et toute ma démarche de journaliste, c'est justement de faire des choses de non-puriste. Parce que le purisme, c'est la mort. C'est la mort.
Alors, en tant que chef du service musique au Figaro, il y a deux personnes que tu as défendues, qui moi en tout cas m'ont marqué, les émissions étaient très belles. C'est Jean-Louis Murat, qui vient de nous quitter, et Daniel Darc, qui est mort déjà il y a quelques années. Tu peux nous expliquer un peu le rapport que tu avais avec eux, comment ça s'est passé, ces émissions-là, comment tu as pu le défendre au Figaro? Est-ce qu'au Figaro, tu fais ce que tu veux, ou des fois, tu as des retours en disant « bon, ça va pas terrible, bof ».
Non, évite. Non, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, et en même temps, je sais pour qui je travaille.
D'accord.
C'est-à-dire que je ne vais pas proposer n'importe quoi, je ne vais pas faire de... Mais j'étais heureux et fier que pour la mort de Jean-Louis, on me donne une page, par exemple. Parce que ça comptait pour eux, et puis ils savaient que... Non, ces gens dont on parle, ces deux personnes-là, il y a eu une espèce de reconnaissance. Puis on s'est suivi longtemps et...
Donc Jean-Louis Murat, on va commencer par Jean-Louis Murat.
Jean-Louis...
Tu l'as rencontré très tôt?
Oui, très tôt.
Dans sa carrière?
Moi, je détestais ses disques au départ. Quand il est arrivé.
Chez Yenoton, tout ça, t'as pas aimé?
Non, ça me passait au-dessus. Pour moi, c'était un bel âtre, quelque chose qui faisait de la variété. Ouais. Moi, j'écoutais que du rock américain, underground, j'étais quand même assez radical. Ouais. Ce type, pour moi, c'était un faussaire, c'était une espèce de bel âtre aux yeux bleus qui passait à la télé. Et puis, j'étais stagiaire aux Rock, et il y a un album qui s'appelait Dolores qui sortait. Putain, j'ai pris une claque, j'ai dit, mais waouh. Je dis, ce mec, en fait, j'ai compris le mec. Je suis allé le voir en concert, je suis allé le rencontrer. Et... puis on a parlé de la même chose, quoi. Et on s'entendait bien parce qu'on gratouillait ensemble aussi. Un jour, il m'avait dit, mais toi, t'es pas un journaliste comme les autres, parce que toi, tu sais jouer de la guitare. Pour lui, c'était vachement important.
Il faut rappeler que Jean-Louis Murat, c'était un très bon guitariste.
Oui.
Que quand on le voyait sur scène, il n'y avait pas deux guitaristes, il était tout seul.
Lui.
Et il faisait tout. Et il avait un jeu de dingue. Enfin, moi, j'ai été très impressionné. J'ai vu l'Olympia. Je ne savais pas qu'il jouait aussi bien. Au sens technique du terme.
Non.
Et donc, tu jouais avec lui et il te considérait comme...
Il m'a appris à jouer ses morceaux, certains. Ouais, c'était super. Pour moi, le stade ultime de la conversation avec un musicien, c'est de jouer avec, de la musique avec. Et effectivement, j'ai eu cette chance-là. Après, je considère qu'on a le droit, on peut écrire sur la musique, on a le droit, qui suis-je? On peut écrire sur la musique sans être musicien, mais moi, j'aurais pas pu. Mmh. Et le plaisir, c'est effectivement de discuter. Je me souviens d'un jour, je dis à Ben Harper, je dis, mais ton album, il est super, j'ai joué dessus. Il m'a dit, comment ça? Je dis, oui, je l'ai passé, j'ai pris la guitare, j'ai joué dessus, j'ai joué avec toi. Les mecs sont assez sidérés parce qu'on est très peu à faire ça. Et moi, ça, je pense que ça me donne un accès. Donc avec Jean-Louis, il y avait ça. Et puis beaucoup d'échanges intellectuels. C'était un des rares artistes avec qui j'ai parlé des journées entières. On parlait des journées entières. De musique et de vie et d'autres choses.
Ah oui.
On était devenus très proches. Daniel, c'était autre chose. Je les ai beaucoup aimés tous les deux, vraiment. Je les ai défendus parce que je me disais il faut vite en parler, quoi.
Tu peux en parler avant l'émission. Tu peux rappeler quand même que tu étais voisin avec, avec Daniel.
Daniel et
Fred Lowe. Voilà. Donc vous viviez quasiment ensemble, vous étiez dans le même quartier.
On se voyait beaucoup. Ouais.
Voilà.
Alors, c'est drôle, c'est qu'ils étaient en train de concevoir Crève-Cœur et un matin je croisais Fred qui me disait: oh là là, j'en peux plus, Daniel, il n'est pas discipliné, oh là là, il traîne, il n'arrive pas à finir un texte, etc. Et le lendemain je croisais Daniel qui me disait: oh, il est chiant ton pote Fred, il est un peu flic. Et je me disais. Pour ça va marcher.
Oui, l'un avait besoin de l'autre.
Ils étaient, et j'étais tellement heureux. Un des plus beaux jours de ma vie, c'est quand Fred m'a appelé, m'a dit je vais te faire écouter l'album, quoi. Parce que c'était un an et demi après qu'on soit tous croisés dans le quartier. Et puis en plus, c'était à une époque particulière de ma vie où le journal où je bossais, Aden, fermait. C'est le dernier papier que j'ai écrit pour ce journal. Donc ouais, j'étais porté. Enfin, je sais pas, on est porté par des forces. Avec ces gens, j'étais porté par des forces un peu supérieures. Je sais pas comment dire ça. Avec Daniel, c'était toujours très... La dernière fois qu'on s'est vu, c'était dans les toilettes du Théâtre Marigny. On allait écouter Christophe. Donc on est quand même dans l'urinoir côte à côte. Et il me regarde et il me dit: Olivier, tu sais quoi? Tu vas me trouver débile, mais je suis heureux. C'était 3 semaines avant sa mort. Mais je suis heureux.
Ouais, ouais.
Je suis heureux qu'il m'ait dit: je suis heureux pour la première fois de ma vie. Et qu'il soit parti comme ça.
Ouais, ouais. Et que tu aies pu recueillir ça, cette parole-là.
Ouais. Et Jean-Louis, je crois qu'il n'était pas heureux quand il est parti, malheureusement. Mais quand on s'était vu, il m'avait dit... À la fin, on se voyait, on parlait 2 heures. On ne parlait pas du disque. Et puis après, on n'avait plus le temps. Et il me disait: ah non, tu écriras ce que tu voudras, je te fais confiance. Tu me connais. Écris ce que tu veux. Il m'encourageait à inventer les papiers. Ouais. C'est une preuve de confiance énorme, quand même.
Et donc, tu as pu, au Figaro, faire ces émissions. Donc, c'est un live. Oui. Donc, il jouait en direct. Ouais. Il y avait 4 ou 5 caméras. Oui. Ça s'est arrêté, ça reprend le live?
Oui, on a repris, là, il y a 2 mois.
Et donc, c'était bien. Et on sent cette complicité que tu as avec eux. Alors, ça, c'est une vraie question en tant que journaliste. Quelle distance on doit avoir par rapport à l'artiste? Parce que c'est délicat, si on rentre des rapports d'amitié, on risque de perdre son jugement critique ou son recul. Et inversement, si on est trop distant, on va prendre un ton supérieur, comme tu as dit, sectaire ou même puriste.
Oui.
Donc, c'est quoi la bonne distance? C'est à la personne?
Ça dépend des gens. Je dirais que je suis encore en train de la chercher, la bonne distance. Mais je ne pense pas qu'on devienne vraiment amis parce qu'il y a trop d'enjeux antagonistes. Mais en tout cas, on a de belles complicités. En plus, quand on fait ce métier depuis longtemps, on voit les gens grandir, évoluer. C'est vachement plaisant. Moi, il y a un type que j'adore, à qui je suis devenu assez pote, c'est Damon Albarn. Pourquoi? Parce qu'il sort tellement de projets qu'on se voit tout le temps. Et ça me rassure qu'ils soient encore là. Et quand il me voit, il est content que je sois encore là. Parce qu'on se dit un peu, mince, 30 ans après, on est là, quoi. On fait encore ça.
Ça fait un peu survivant.
Mais quand même, on est là.
Oui, parce que c'est pas facile, c'est pas évident de faire une carrière, de durer en fait dans ce
non,
métier. C'est pas évident.
Et est-ce qu'à l'inverse, le journalisme aujourd'hui culturel, il est quand même dans un état.
Et à l'inverse, est-ce que tu n'as pas des fois le cœur brisé pour le coup pour des artistes que tu as beaucoup aimés et puis tu as vu leur carrière s'arrêter très vite?
Si, bien sûr. Oui. On se dit qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus. Ouais, des gens que je défends. Il y a un musicien anglais que j'adore, que je défends, qui va sortir un album là, qui est Richard Thompson. J'ai écrit des papiers, des dizaines de papiers. Il est toujours aussi méconnu et ça m'attriste. Parce que moi, j'ai vraiment... Moi, ce métier, je le fais comme quand je faisais des cassettes pour les copains au lycée. Tiens, écoute ça. Moi, mes lecteurs, j'ai l'impression que c'est des gens à qui je peux dire « Mais vraiment, vraiment, faites-moi confiance, c'est vachement bien, écoutez. » Mon métier, c'est tout. C'est le prolongement de ce que j'étais ado. C'est pareil.
Ouais, c'est la même passion chose. Qu'on sent chez toi.
La transmission.
Ouais. Et... Alors, une vraie question pour moi, qui me travaille beaucoup, j'en ai parlé avec Fred Lowe, j'en ai parlé avec Marc Dufaux, avec d'autres musiciens.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Avec cette petite pointe de suspense, je vais pouvoir enfin poser ma question. Quelle différence tu fais entre le rock et la variété? Parce qu'en France, on n'a pas la pop, ok? Ça n'existe pas la pop, c'est un truc anglais. Ouais. Donc nous, on a la variété, le rock. Quelle différence tu fais? Est-ce que tu en vois une ou pas?
Oui, j'en vois une. J'en vois une. Je dirais qu'il y a un exemple. Je pouvais prendre un exemple. Johnny Hallyday. Est-ce que c'est du rock? Est-ce que c'est de la variété? Je dirais que le problème de la carrière de Johnny, c'est que à un moment donné, comme il est en France, lui, j'ai beaucoup discuté avec lui. Lui, c'est un fan de rock authentique et sincère. C'était un vrai passionné, vraiment. Mais comme on est en France, il a dû faire des compromis, faire des disques de variété. De la variété française, de la grande
variété. Mais quand on fait du rock, on n'est pas censé faire des compromis tout le temps.
Non, mais quand on est une star, je peux comprendre. Je peux comprendre. Et après, il est revenu un peu au rock. Mais il savait très bien faire la différence. Je ne sais pas comment la définir, mais je la sens. Je la connais, je l'entends. Après, Bachung, est-ce que c'est de la chanson ou est-ce que c'est du rock? C'est une vraie question.
Ah, c'est une question fondamentale pour moi, parce que c'est réussir à donner un genre ou un style à une musique, c'est pas évident. Souvent, les artistes s'y refusent, parce qu'ils se rêvent tous inclassables, originaux, créateurs, géniaux. Mais nous, en tant qu'amateurs de musique, en tant qu'auditeurs, et si on est journaliste, ou si on est prescripteur, ou si on veut conseiller les gens, on est obligé de dire « tiens, ça, c'est du rock, ça, c'est machin ». Mais la question est plus profonde pour moi. À cette question-là, il y a deux personnes ont répondu. Fred Lowe a dit qu'en fait, c'est une question d'attitude. C'est-à-dire que lui, ça vient du fait qu'il a fait des groupes de rock, il a tourné. Et donc, du coup, maintenant qu'il est produit, il a ça, son histoire-là, de, quand tu cherchais des concerts, trouver des concerts, jouer du rock quand tu es jeune. Il y a Arnaud Vivian qui pense que l'essence du rock, c'est le groupe. Contrairement au classique où c'est un chef d'orchestre avec un orchestre qui est dirigé. Le jazz, c'est un leader qui est accompagné. Et le rock, non, ça va être le groupe. Donc ça, c'est intéressant. C'était une définition qui était non musicale du rock.
Oui, c'est vrai.
Après, on pourra en trouver d'autres. Moi, modestement, dans mon petit bouquin « Métaphysique du rock », j'ai tenté de donner ma définition. Donc, tu le sens, mais tu n'arrives pas à définir ce qui fait la différence entre le rock et la variété.
La variété. En fait, la variété. Mais je m'appuie sur le témoignage d'un copain qui est Jean-Michel Cagedan, un immense guitariste, et qui avait auditionné pour Dassin, qui m'avait dit « Joe Dassin, quand on l'accompagnait, on ne pouvait pas lui parler directement. On était obligé de parler au directeur musical. » En fait, c'est ça, la différence. C'est que dans la variété, il y a le chanteur devant et les musiciens, ils sont quasiment derrière le rideau. D'accord. Et dans le rock, ils sont tous ensemble.
Okay.
Et si on essayait une chose sur les paroles, je pense à Bergman, avec Bachung. Ouais. Si on faisait la différence sur le texte, c'est très étrange comme idée. Mais en France, je pense que ça marche. Et qu'on pourrait mettre, par exemple, Brel dans la variété. Et en fonction du texte, on aurait rock, mais c'est seulement quand le texte est imbitable.
Oui, il y a une rupture.
Par exemple, ce que j'aimais bien dans Autumn Cheyenne de Murat, c'est le texte.
Ouais, c'est
quand
vrai.
Il parle du mur des fédérés, tu comprends, moi je pleure. Et ça vient d'où ça, tu vois?
Oui, c'est vrai.
Et
Non, il y a une nouvelle forme poétique qui advient avec Laurent, effectivement. C'est plus littéral, c'est moins littéraire. C'est moins narratif, c'est moins...
Bergman est un génie.
Voilà, donc ça,
il a fait des tubes, il sait ce qu'il fait.
Ouais.
Hein, il a fait des tubes
en
anglais.
Il invente une langue.
Et t'as Higelin avant, qui prend des risques inouïs au niveau de la parole, et qui est soutenu par une très bonne musique. Et pour moi, qui suis un littéraire, je peux pas écouter, si tu veux, la variété à cause du texte.
Oui, c'est ça.
Souvent, les arrangements aussi, des fois, c'est des cordes, des violons.
C'est les arrangements. Je suis d'accord avec toi, c'est la production du disque qui détermine si c'est du rock ou de la variété.
Ferrat, tu te replantes dans certains albums, ça, c'est inécoutable.
On a ça avec le rock.
Ferrat, il y a Goraguer aux arrangements, quand même, c'est magnifique.
Oui, mais des fois, c'est trop. Et puis, tu sens bien pourquoi le rock s'est imposé auprès de la jeunesse.
Parce que d'un coup. Ferré, sur le type de musique qu'il met, c'est, tu ne veux pas écouter certaines choses.
Alors, ça, c'est très bien. Non, mais c'est bien ce que tu dis, parce que ça me permet de venir à ma question suivante. Je pense que tu entretiens quand même une passion un peu coupable avec les yéyés, avec Johnny Hallyday, Dick Rivers, tous ces Français qui sont les premiers qui ont fait espèce de anglais en yaourt. J'ai l'impression que tu es resté attaché quand même à ça. Tu fais encore des papiers dessus. Tu veux pas. Johnny.
Johnny, on est. Quand on est au Figaro, on est obligé de suivre Johnny.
Ah, d'accord. C'est doctrinal, pour le coup.
Bah, c'était un phénomène national.
D'accord.
Après, moi, je lui parlais musique et je sentais bien qu'il n'était pas habitué à parler musique avec les autres, avec les confrères. Moi, je ne lui ai jamais parlé de ses enfants ni de sa femme, je m'en fichais. Je lui parlais de musique et on avait des discussions sur la musique.
Et Dick Rivers, tu as fait un papier récemment sur Dick Rivers.
Dick Rivers, parce qu'il y a des rééditions. C'est sympathique, Dick Rivers. C'était un mec. Ces mecs étaient des passionnés. Mais le yéyé, artistiquement, c'est une impasse, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est Véronique Sanson qui arrive et qui met un coup de pied dans le yéyé. Dutronc, Nino Ferrer, des gens comme ça qui...
Et donc Dutronc, c'est les paroles. Hein. C'est son parolier, Lanzmann.
C'est l'alliage des deux. Pour moi, une bonne chanson, justement, c'est peut-être une tentative de définition de la différence entre la variété et le rock, mais pour moi, une bonne chanson, c'est autant la musique que le texte. Et on est dans un pays où on peut faire un super texte et une musique pourrie, et on va dire c'est une bonne chanson. Non, je ne suis pas d'accord, il faut les deux. Il n'y en a pas un plus important que l'autre.
Ça, c'est le côté tradition chanson française.
Non,
faut
oui.
Il faut que ça soit littéraire. Il faut qu'il y ait un côté littéraire et c'est du coup chanson française.
On s'en fout.
Mais et effectivement, le rock, même au mixage, tu vois bien qu'un morceau de rock n'est pas mixé de la même façon. Dans la chanson française, tu as la voix qui est hyper en avant et le groupe derrière est très bas.
Mais le rock, c'est awa, baouloubaba, balaba, boum. Ça ne veut rien dire, mais c'est génial. Mais en France, c'est difficile de faire ça. Donc, on a eu du rock littéraire prétentieux à la Noire Désir. Au secours, quoi. Les textes de... J'ai aimé ça quand j'étais au lycée. Mais citer Lautréamont à tout bout de champ et Maïakovski, etc., ça fait étudiant en lettres.
Ouais.
Non, c'est casse-gueule. Effectivement, Bergman a inventé un truc pour Bachung. Les deux.
Alors on sent bien quand même que pour toi, le rock, il y a un côté un peu sacré. Ça vient d'où cette foi dans le rock? Qu'est-ce qui fait que c'est encore vivant, que ça brûle toujours et que tu as envie de le défendre comme un ado?
Je ne sais pas si c'est sacré. Parce que c'est un peu pourri aussi le rock, c'est un peu vulgaire. Il y a des tas de rock qui ne me plaisent pas, il y a des trucs qui me dépriment dans le rock. Je n'ai pas l'impression de défendre le rock. Je défends la musique quand elle est bien, mais il y a des groupes de rock que je n'ai jamais écouté de ma vie, que je ne vais pas écouter ou... Des concerts atroces. Je me souviens, j'étais allé voir Status Quo. Là, j'aime pas le rock dans ces cas-là. Je préfère écouter Brigitte Fontaine.
Qu'est-ce que tu préfères, toi? pour le coup, parce que je sais que tu vois beaucoup de concerts, tu connais plein de gens, tu traînes avec plein de gens. Qu'est-ce que tu préfères? Si tu devais choisir, tu préfères un concert ou le disque?
Je peux pas répondre à ça. Parce que si je choisis le concert, je me prive des Beatles et d'Hendrix. Parce que par définition, je les ai découverts par les disques. Pour moi, l'idéal, c'est le concert. Mais le disque, c'est une bonne manière d'écouter quelque chose d'avant. Parce que si je me satisfais des concerts, je loupe une grande partie de l'histoire de la musique.
Mais en fixant les choses, en les arrêtant, en les réifiant, pour prendre un langage un peu daté politiquement, est-ce qu'on n'a pas empêché d'autres Hendrix, d'autres Beatles, d'autres Stones d'advenir? Parce qu'il y a certaines danseuses, par exemple Pina Bausch, qui refusaient que ces spectacles soient filmés parce qu'elle ne voulait pas fixer la danse. Elle voulait qu'il y ait des disciples qui continuent. J'ai rencontré des musiciens africains, des griots, qui refusaient d'enregistrer parce qu'ils voulaient transmettre de maître à disciple. Donc il y a un côté art vivant que le rock avait au début. Et ça, c'est un peu aussi une thématique personnelle qui m'obsède, mais Jeff Beck disait que l'enregistrement, c'était un mensonge, c'était une grosse arnaque.
Oui,
lui, il considérait que le live, c'était la vérité de la musique.
Non, mais c'est vrai, rien ne vaut un concert. Moi, j'ai jamais eu... L'émotion m'a jamais autant procuré... la musique m'a jamais procuré autant d'émotions que live. Oui, évidemment.
Voilà.
Après, c'est... Déjà, un enregistrement, c'est une reproduction. Donc c'est du faux.
Non, ça peut être une création aussi. Il y a des gens qui peuvent créer.
Oui, mais on reproduit un moment. On reproduit un moment où on n'était pas.
Alors parlons, comme tu es guitariste et passionné de guitare, tu postes souvent des choses sur Instagram où on te voit avec des guitares, tes nouvelles acquisitions ou des collectors que tu ressors. Est-ce qu'il y a des grands guitaristes de rock en ce moment ou pas, ou c'est fini la guitare?
C'est un peu fini.
John Frusciante, par exemple, est-ce que ça te touche ou...
Ah oui, je l'ai rencontré, ouais, ça me touche. Mais il est vieux.
Il est vieux, il a mon âge, 54 ans.
Voilà, non mais quand je dis... Non, l'avenir de la guitare, c'est les femmes. Je trouve que les meilleurs guitaristes actuellement sont des femmes.
D'accord.
Anna Calvi, je la trouve génialissime. Saint-Vincent, musicienne américaine. Et la guitariste qui a joué avec David Byrne aussi, là, sur la grande tournée, j'ai oublié le nom. Voilà, pour moi, l'avenir de la guitare électrique, ça passe par les femmes. Mais le guitare héros un peu macho, ça c'est fini. Et tant mieux. Tant mieux.
C'est pas forcément macho. Enfin, il y a un truc très féminin chez John Frusciante. Hein. Sur son premier album solo, il est travesti en femme.
Non, mais je parle pas de lui, je parle de certaines attitudes.
Oui, ben, c'est un symbole phallique avec des démonstrations techniques.
Côté un peu beauf.
Oui, mais c'est loin d'être le rock. En tout cas, l'avenir de la guitare appartient aux femmes. C'est bien pour terminer, non?
Absolument. Donc nous étions sur Allegre FM 93.1. Dans la vie est un roman. Bon, à la semaine prochaine.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.